d'avoir choisi la première et excellent début de journée à vous. Certains pensent qu'il est dans le pré, l'OCDE le mesure. Depuis 10 ans, le bonheur a aussi sa journée mondiale et c'est aujourd'hui le 20 mars. Et s'il y a bien quelque chose qui a été chamboulé cette dernière année, c'est notre bonheur, ou en tout cas la manière dont on peut l'atteindre malgré toutes les restrictions qui nous sont imposées. Alors, sur quoi repose le bonheur? Comment a évolué cette notion au cours de l'histoire? Est-ce que notre bonheur individuel est compatible avec les limites qu'impose la vie en société? Eh bien, ce matin, je vous propose d'en parler avec Michel Galli, qui est professeur de littérature à l'université d'Aix-Marseille, auteur du dictionnaire historique et critique du bonheur paru aux éditions CNRS. Bonjour Michel Galli.
Bonjour.
Alors d'abord, de quoi parle-t-on quand on parle de bonheur? Est-ce que chaque époque n'a pas sa propre vision du bonheur?
Certainement. De toute façon, je pense que c'est une des notions les plus difficiles à définir et à la fois commune, puisque tout le monde parle du bonheur, ou du moins aspire au bonheur, ou pense vivre des moments, des instants de bonheur, mais la définition est extrêmement compliquée. Le terme français, bon, il faudrait voir dans les autres langues, bien sûr, mais là, j'ai pas le temps. Le terme français, c'est pas heure, n'est-ce pas, hein? C'est déjà un mot valise qui veut dire bon, et heure renvoie au sort, en réalité, à la fortune, comme on disait autrefois. Donc, quelque chose qui est une part de hasard, en quelque sorte. Voilà. Alors, bien entendu, chaque civilisation, on pourrait dire, et donc chaque moment historique, a eu sa définition du bonheur, ou a essayé de cerner, hein, cette notion qui paraît en effet, sinon universelle, du moins transséculaire, c'est certain. Et pour notre civilisation occidentale, c'est peut-être le XVIIIe siècle qui a le plus posé la manière dont nous continuons, je pense, à penser le bonheur entre réalisation individuelle, hein, vous savez, hein, le XVIIIe, c'est le début finalement du souci de soi, disons, hein, bien sûr, et réalisation politique, donc commune, collective, puisque le XVIIIe, c'est aussi les constitutions qui vont faire rentrer le souci du bonheur dans la Constitution, justement.
Mais d'ailleurs, il y a toute une partie dans votre dictionnaire du bonheur qui est consacrée aux politiques, justement, qui se préoccupent du bonheur. Cette évolution de la notion de bonheur, qui n'a pas toujours été la même, effectivement, vous le disiez, de quoi elle dépend, finalement? Est-ce que, par exemple, une épidémie mondiale peut modifier la conception qu'on a du bonheur?
Écoutez, bon, nous sommes en train de le vivre, il est difficile de faire déjà un bilan d'une certaine façon, bien que je sais que bien des ouvrages paraissent déjà, mais enfin, oui, ça peut la modifier par les conditions, bien entendu, hein, qui sont imposées aux individus. Hein, et là, on retrouve toujours, hein, ce que je viens de dire très brièvement, le rapport difficile, dialectique, si on veut être un petit peu plus pédant, entre le bonheur individuel, donc, la satisfaction, hein, quels équivalents donner au terme bonheur, hein, pas tout à fait le plaisir, hein, mais aussi la joie, hein, de se sentir bien, être heureux, justement, et les conditions que la société, à tort ou à raison, sont en train de nous imposer, hein, en particulier la restriction, hein, de ce qu'on peut appeler quand même les libertés, hein, la liberté de circuler, la liberté de communiquer, la liberté de se rencontrer.
On a l'impression que c'est pas tout à fait compatible, ces deux libertés-là, et pourtant, dans votre livre, vous expliquez que le bonheur individuel, la manière dont il a été pensé, notamment dans l'Antiquité, était fondamentalement lié au bonheur collectif, au bonheur de la société tout entière. Expliquez-nous.
Tout à fait. Hein. Souvent, on projette sur l'Antiquité. Bon, ben, c'est difficile. Hein. L'idée de l'Antique, c'est que, vous savez, grosso modo, l'homme, enfin l'individu, est un zoon politikon, hein, c'est-à-dire un être, n'est-ce pas, de vie, hein, zoon, qui est de toute façon social, comme on peut dire aussi, de façon plus moderne. Et donc, on ne peut pas dissocier tout à fait une perspective individuelle, hein, un accomplissement individuel, pour le dire aussi en termes plus modernes, hein, et quelque chose qui serait de tourner le dos entièrement à la société. Hein, et donc, les philosophes antiques, enfin du moins je dirais classiques, hein, c'est-à-dire à partir des socratiques, de Platon, etc., hein, vont essayer de combiner, hein, ce que nous essayons toujours de combiner, hein, le démonisme, c'est-à-dire finalement une relation qu'on peut appeler spirituelle ou philosophique, si vous voulez, au bonheur, hein, chercher le bonheur dans la taraxie, n'est-ce pas, maîtriser ses passions, etc., etc., et ce que l'on appelle l'hédonisme, alors encore une fois, pas de façon un peu plus vulgarisée, qui n'est pas nécessairement la recherche des plaisirs plus ou moins interdits ou extraordinaires, ou, etc. Mais malgré tout, hein, quelque chose qui engage davantage, je dirais, le corps, les plaisirs, les sens, n'est-ce pas, quels qu'ils soient. Hein. Et c'est vrai que l'Antiquité a essayé, hein, de combiner les deux. Et pour aller là aussi terriblement vite, d'une certaine façon, quand on passe au christianisme, encore une fois, je schématise, mais nous sommes héritiers, hein, de toute cette histoire-là, bien sûr. Hein, eh bien, le bonheur, le vrai bonheur, le bonheur absolu, n'est-ce pas, ne se produira qu'au-delà de la mort. Et là, il y a une sorte de, pour une fois très vite dit, de dissociation, si vous voulez. Et on pourrait dire qu'au XVIIIe, etc., hein, il y a une sorte de retombée, si l'on peut dire, du bonheur sur la Terre, d'où les constitutions qui vont retrouver quelque chose, mais dans des sociétés complètement différentes, avec des pensées différentes, etc., de l'Antiquité, de ce point de vue.
Hein, et le bonheur
ici, on ne peut pas faire le bonheur individuel sans le bonheur, oui, collectif.
Bon. Le bonheur ici et maintenant, on a l'impression que c'est la manière aussi de concevoir le bonheur aujourd'hui. En tout cas, il y a une quantité très très impressionnante de livres qui sortent pour avoir les meilleures méthodes pour être heureux, des podcasts aussi, des gens qui interviennent sur le sujet. On se demande si c'est plutôt du bonheur ou du développement personnel. En tout cas, c'est en plein boom. Vous en parlez, hein, d'ailleurs, dans votre dictionnaire dans lequel il y a une entrée guide du bonheur. Mais c'est surtout pour souligner l'ambiguïté de ce développement personnel. Alors, c'est quoi le problème avec le développement personnel ?
Alors, ambiguïté, entendons-nous, hein, des sociologues, etc., que je cite, ont dit, ont montré, preuve à l'appui, statistiques à l'appui, etc., enquête à l'appui, que cela peut faire du bien. Et ça, ça n'est pas contestable. Hein. Un certain nombre de gens témoignent de ce que ça leur a apporté de se livrer à une, ne soyons pas trop crédibles, une sorte de pseudo-méditation, enfin des techniques, par exemple, de méditation, des techniques de pensée à soi, etc., etc. Là où est l'ambiguïté, mais à un niveau de réflexion, c'est que tout cela va non seulement du côté de la psychologie, et qui dit psychologie, de psychologisation, si vous voulez, de la vie, dit individualisation, et donc autonomie. Et le glissement qui peut s'opérer, qui s'opère parfois à un autre niveau, c'est que l'individu, quel que soit ce qui lui arrive, mais j'entends là aussi, puisque c'est notre débat, ce qui peut lui arriver à cause de la société, je ne sais pas, pour dire très bêtement, on perd son boulot ou des choses comme ça, vous voyez, hein, l'individu est toujours responsable finalement.
Est-ce que du coup ça veut dire en gros, on nous dit prenez-vous en main quoi ?
Voilà. Hein. Et c'est cette idéologie qu'on peut qualifier de dominante. Encore une fois, je suis un peu schématique parce qu'on va un peu vite, hein, mais c'est cette idéologie dominante qui peut être, du moins, pensée de façon critique, c'est-à-dire de façon sur laquelle on peut réfléchir, quoi, pour voir jusqu'où elle nous amène. Alors, bien entendu, qui conteste, et moi je ne conteste pas du tout, hein, l'idée d'essayer de poursuivre son bonheur, d'être dans la sérénité, d'arriver à bien vivre, n'est-ce pas, bien entendu. Hein. Mais on peut voir aussi que tout le monde ne peut pas y parvenir pour des raisons que je qualifierais quand même d'objectives. Hein. La pauvreté s'accroît, y compris dans nos pays occidentaux qui sont quand même les plus, normalement, les mieux installés, je dirais, dans le monde, enfin, jusqu'à présent, du moins, hein, il y a un certain nombre de problèmes, hein, sociaux, pas simplement la pandémie, nous le savons tous, chez vous comme chez nous, hein, et donc, voilà, est-ce que tout individu est maître entièrement, vous voyez, de son bonheur, et à ce moment-là, toutes ces affaires de bien-être, de technique, de etc.
Elles deviennent presque culpabilisantes, finalement.
Voilà. On peut nous culpabiliser. Vous voyez ce que je veux dire?
Exactement. Ouais. Voilà. Merci beaucoup. Merci Michel Galli d'avoir souligné avec nous le bonheur et ses ambiguïtés en cette journée mondiale du bonheur. Je rappelle donc que vous êtes professeur de littérature à l'université d'Aix-Marseille et que vous êtes l'auteur du dictionnaire historique et critique du bonheur qui est paru aux éditions CNRS. Merci à vous.
Au revoir. Merci.
Très belle journée et on va poursuivre en musique avant le journal de